France Inter.
L'invité au carré, aujourd'hui...
Anna Tsing, anthropologue, professeure de Californie.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Vers 1798, un rapport de l'amirauté britannique indiquait qu'il y avait dans la ville de Woolwich, sur les berges de la Tamise, un bateau en si mauvais état que le pont s'était effondré sous le poids d'un homme, alors que des champignons de couleur orange et brune étaient suspendus en forme de cône inversée d'un pont à l'autre. Entre le début du 18e et le milieu du 19e siècle, la marine britannique a connu un sérieux revers. Ses navires ont commencé en effet à pourrir avant même d'être mis à l'eau. Le problème était dû à un champignon. La mérule pleureuse qui a sonné le glas des navires de guerre en bois. Ce champignon existait depuis bien plus longtemps que les humains, mais les infrastructures de l'Anthropocène ont réussi, en répandant tout autour du monde certains champignons, à obtenir ce qui serait resté autrement confiné dans des lieux circonscrits. C'est cette propagation qui, dans de nombreux cas, a été la cause des problèmes. La mérule, dont le nom savant est Serpula lacrimans, n'est pas un pathogène, elle mange du bois mort. Ce champignon n'est préoccupant que lorsqu'il infecte la partie utilisée d'une pièce de bois, comme dans un navire ou une maison. Grâce au navire britannique, la mérule pleureuse a donc fait le tour du monde, s'installant tout particulièrement dans les zones de la colonisation britannique, comme l'Amérique du Nord et l'Australie. Ce champignon est en phase avec la proto-industrialisation de l'Anthropocène, c'est-à-dire le déploiement global de produits standardisés. Cet organisme non humain a été capable de prospérer et de prendre les rênes de l'histoire. Le monde que nous construisons ne nous appartient plus, c'est à eux qu'il appartient. Bonjour Anna Tsing. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Cette histoire, c'est vous qu'il a raconté dans cet ouvrage « Notre nouvelle nature, guide de terrain de l'Anthropocène » qui est publié aux éditions du Seuil, un livre dans lequel vous montrez à quel point les activités humaines ont pris une place majeure, sans pour autant d'ailleurs contrôler la situation. Nous allons en reparler. Vous êtes de passage en France, Anna Tsing, pour présenter cet ouvrage. Vous qui êtes professeur en Californie. La Californie, on en reparlera également sous le feu des projecteurs avec les manifestations contre la politique migratoire de Donald Trump. C'est l'occasion pour les auditeurs et auditrices de faire connaissance avec vous. Et votre histoire commence le 20 octobre 1952. Voici le petit journal de votre naissance. Et merci à Marguerite Capelle qui traduit cet entretien.
À Marseille, le vieux port va-t-il être rebaptisé le Port Neuf ? Partout, des immeubles surgissent et, dominant la ville, le plus grand et le plus extraordinaire est la cité radieuse que le ministre de la Reconstruction a inaugurée cette semaine. Et c'est sur la terrasse que son créateur, l'architecte Le Corbusier, a reçu des mains de M. Claudius Petit la cravate de commandeur de la Légion d'honneur. La cité radieuse est née.
Bientôt l'hiver, madame, et d'ores et déjà, les fourreurs français ont choisi pour vous les modèles de la saison. Cette année encore, le manteau d'Astrakhan règnera en maître. Le babifoque aussi aura ses ferventes, mais sans doute doit-on réserver une place importante au rat façon vison qui met en valeur la qualité de l'apprêt et du lustre des pelleteries françaises qui ont maintenant conquis la première place mondiale.
Le 1er novembre 1952, les États-Unis ont procédé à leur premier essai de bombe à fusion thermonucléaire baptisé Ivy Mike sur l'atoll d'Eniwetak dans l'océan Pacifique. Cet essai a marqué la première détonation réussie au monde d'une bombe à hydrogène, nettement plus puissante que les précédentes bombes atomiques.
Voilà pour le journal de votre naissance, Anna Tsing, 20 octobre 1952, journal préparé par Sabine Dahuron de Lina et Valérie Ayestaraï. Alors c'est vrai qu'on a triché de 10 jours avec le premier test d'une bombe à hydrogène donc aux États-Unis le 1er novembre 1952, mais ça nous semblait quand même intéressant de vous interroger sur cette actualité de l'époque, vous qui travaillez sur l'Anthropocène. Est-ce que la bombe atomique en 45 ou cette bombe à hydrogène en 52 sont pour vous un marqueur de l'entrée de notre humanité dans l'Anthropocène, cette période où les activités humaines sont visibles dans la géologie de notre planète ? Anna Tsing.
Is it one of the moments? Yes. One of the Oui,
l'un des signes les plus importants de l'entrée dans l'Anthropocène, c'est justement la radioactivité créée par les activités humaines, et en particulier ces bombes que vous évoquez. Jusqu'à tout récemment, on pensait que l'Anthropocène, l'histoire de l'Anthropocène allait justement être une épopée fondée sur ces signatures de cette radioactivité depuis 1945. Mais aujourd'hui, on peut peut-être regarder à plus long terme une période très hétérogène qui suit cette date et tous les autres modèles de bombes également. Et il y a d'autres signatures radioactives qui se répandent partout dans le monde, qui dépendent de toutes sortes d'activités, y compris aussi les catastrophes nucléaires comme Tchernobyl ou Fukushima, et d'autres endroits où la radioactivité a échappé au contrôle humain.
On en reparlera évidemment longuement avec vous, parce que c'est au cœur aussi de votre dernier ouvrage, avec ces activités humaines qui ont des effets évidemment massifs, irréversibles sur les écosystèmes et les paysages. Annette Singh, vous êtes née donc aux États-Unis. Dans quel état, dans quelle ville exactement ?
Je suis née à San Francisco, en Californie.
Et vous avez vécu ensuite en Ohio, c'est ça, hein ? Vous avez quitté la Californie ?
Ouais. Oui, c'est vrai, j'ai vécu à Cincinnati, en Ohio.
Votre père était américain, votre mère chinoise. Vous expliquiez dans un article du Monde que les relations interraciales sont particulièrement compliquées dans l'Ohio. Pourquoi ?
Quand mes parents se sont mariés, c'était le tout début de la période où les lois contre le mariage mixte commençaient à être démantelées, à être annulées. Alors, ce n'était pas illégal à ce moment-là, mais ça ne signifie pas que toutes les normes sociales, les conventions contre le mariage mixte avaient disparu. Quand on s'est installé en Ohio, des questions très simples comme à quel endroit est-ce qu'on pouvait s'installer, quel genre de personnes accepteraient de fréquenter mes parents, c'était vraiment quelque chose de très présent. Et ça a fini d'ailleurs par détruire leur union assez rapidement, parce que c'était très difficile de franchir cette barrière raciale à l'époque.
Votre mère, vous l'expliquez aussi dans un livre, a quitté la Chine donc pour les États-Unis à une époque où de nombreux Sino-Américains étaient surveillés par le FBI, et vous écrivez qu'elle a subi une sorte d'assimilation forcée à la culture américaine. Comment ça s'est traduit exactement ?
Elle est venue avec une bourse d'étudiante, mais elle n'a pas pu rentrer chez elle parce que les mauvaises relations entre les États-Unis et la Chine l'interdisaient. Donc elle a dû apprendre à devenir américaine. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus triste pour moi, c'est qu'elle a tenté de conserver cette américanité en ne nous apprenant pas le chinois. J'aurais pu parler chinois, mais il y avait cette peur que le bilinguisme vous empêche d'être un véritable Américain. À l'époque, dans l'Ohio, les gens qui la voyaient dans la rue lui disaient « Les Chinois, rentrez chez vous ». Il y avait encore beaucoup de racisme de la part d'étrangers. C'était vraiment dans l'ambiance.
Et vous dites que ça vous a empêché donc d'être bilingue, effectivement, ou même de consommer des plats traditionnels chinois. Ça, c'était votre réalité
On mangeait de la cuisine chinoise, mais à l'époque, les matières premières étaient difficiles à trouver pour cuisiner aux États-Unis, donc on se débrouillait avec les ingrédients qu'on trouvait pour essayer d'en faire quelque chose qui ressemblait à la cuisine chinoise.
Ouais. Comment on vit dans ce cadre-là en tant qu'enfant métis, Annette Singh ?
À l'époque, dans la ville où on habitait, il n'y avait pas beaucoup d'Asiatiques. Mais c'était une ville qui était très divisée entre les Américains d'origine africaine et les Américains d'origine européenne. Les tensions étaient très fortes. Donc, mes frères et sœurs et moi, on a dû apprendre à affronter une situation sociale très complexe et difficile. Très dur. C'était encore très compliqué d'exister, tout simplement. Je peux vous raconter une anecdote, si vous voulez. Je suis allée à un bal de l'école, adolescente, une fois. Ça se passait dans un gymnase, donc un grand espace vide, et les enfants blancs étaient d'un côté, et les noirs étaient de l'autre côté, et il y avait cet énorme espace vide entre les deux. Je suis allée avec un garçon africain-américain, et on a essayé de danser dans ce vide qu'il y avait entre les deux, mais c'était vraiment tellement inconfortable que j'ai fini par lui dire que c'était pas grave s'il préférait aller avec les autres ados noirs, et j'ai fini par m'installer sur les marches de l'école devant jusqu'à ce que le bal soit terminé. Ça vous donne un petit peu une idée des tensions raciales de l'époque, qui n'ont pas disparu complètement d'ailleurs.
Exactement, ces tensions raciales, elles sont là en plein cœur des États-Unis aujourd'hui, avec ces expulsions massives d'étrangers ordonnées par Donald Trump, et des manifestations qui se multiplient en ce moment dans de nombreuses villes de votre pays pour dénoncer justement cette politique migratoire. Qu'est-ce que ça vous inspire, Anna Tsing, ce qui se passe en ce moment, à la fois de la part de l'administration américaine, mais aussi de la part de la mobilisation citoyenne ?
Je suis très fière de mes compatriotes qui descendent dans la rue à un moment très difficile et se font entendre. Et j'ai aussi très très peur du recours à l'armée pour réprimer ce qui était notre droit très ordinaire de citoyen, de se faire entendre dans des manifestations publiques. Ça l'était, et d'un seul coup, c'est un droit qui nous est refusé de façon très violente.
On voit se mettre en place donc beaucoup de solidarité et d'entraide dans ce moment critique aujourd'hui. Est-ce que ça pourrait être de nature, selon vous, à combattre les politiques migratoires, la politique migratoire de Donald Trump ?
En fait, j'ai honte de le dire, mais non seulement moi et beaucoup d'Américains, on n'est pas capable de savoir ce qui va être efficace. Au stade où on en est, on n'arrive pas à voir comment agir. Ce gouvernement central très puissant avec cette tendance répressive est arrivé si vite qu'on est encore en train d'essayer de construire des outils de résistance et de comprendre comment la stratégie efficace peut se dérouler.
Mais vous parlez quand même beaucoup dans vos ouvrages justement du poids, de la solidarité, de l'entraide. C'est quand même une clé majeure aujourd'hui dans la lutte, non ?
Oui. Ce sur quoi je travaille depuis longtemps, c'est une politique dans laquelle les coalitions sont au centre. Et à l'heure actuelle, c'est vraiment le bon moment, le moment parfait pour que justement une coalition politique de personnes pour qui la justice sociale, la liberté d'expression, l'immigration, l'environnement, le genre, la sexualité, tout ça compte, toutes sortes de sujets différents sur lesquels travaillent beaucoup de personnes, ce serait le bon moment pour créer une véritable coalition transverse. Et ce serait une façon de réagir qui serait puissante.
Est-ce que les États-Unis sont en train de devenir une dictature, Anna Tsing ?
En tout cas, très clairement, c'est un régime autoritaire, une forme de régime autoritaire. Nos meilleures ressources, c'est d'aller voir ce qui s'est passé dans d'autres régimes autoritaires dans le monde et comment ils ont fait face à la vie dans ces conditions.
Est-ce que cette répression, justement, qui est lancée par le gouvernement républicain contre l'immigration, elle fait écho aussi à votre propre famille ? Est-ce que ce qui se passe en ce moment, vous auriez pu le vivre vous aussi dans les années 50-60 ?
Oui. Pendant la période de la guerre froide, quand j'étais enfant, tous les Sino-Américains étaient sous surveillance. On ne pouvait pas recevoir certains types de courriers. Les Sino-Américains ne pouvaient pas faire leur service civique, ne pouvaient pas être dans l'administration. Il y avait beaucoup de surveillance.
Et est-ce que cette réalité-là, de votre enfance, elle a eu un rôle important aussi dans votre désir plus tard de devenir anthropologue ?
Oui, je crois que l'expérience que j'ai vécue au lycée, je vous ai raconté une petite anecdote, celle du bal, m'a donné une conscience très forte de la stratification des classes sociales et de la discrimination sociale. À l'époque, je n'avais encore jamais entendu parler de l'anthropologie comme façon d'y réfléchir. Mais quand je suis arrivée à l'université, ce qui m'intéressait vraiment, c'était de comprendre comment ces formes d'injustice et d'inégalité que nous connaissions étaient advenues, comment elles étaient nées, d'où elles venaient, quelle était leur histoire, comment ça avait pris cette forme.
Ouais, et tout ça dans un cadre aussi d'université très sexiste, machiste, parce que vous le racontez, vous faites partie de la première génération de filles à entrer, en l'occurrence, à Yale.
That's right. And
c'est exact.
If I may, another small story.
Et si je peux me permettre une autre petite anecdote. Quand je suis arrivée à Yale, je voulais faire des sciences ou peut-être médecine. Je voulais suivre ce cursus. Mais j'ai eu un conseiller en première année, un conseiller d'orientation, qui m'a dit « Les filles ne peuvent pas faire de sciences ». Donc il refusait de signer ma demande d'inscription. Il exigeait que je fasse des sciences sociales et des humanités. Des sciences humaines. Je n'avais jamais entendu parler, en l'occurrence, des sciences sociales et des humanités, je dois dire. Je savais que ça existait, mais il m'a demandé en fait, de faire une première année. Et puis finalement, ça m'a énormément attirée. En particulier l'anthropologie.
Donc c'est grâce à lui, finalement. Vous pouvez presque le remercier rétrospectivement.
C'est un peu difficile.
Ouais.
J'étais presque en colère contre moi-même de n'avoir pas mieux réagi à l'époque. Mais oui, en tout cas, ça a élargi mes horizons sur le type de connaissances auxquelles je pouvais avoir accès.
Mathieu Vidard, La Terre au carré.
Annette Singh, notre invitée anthropologue américaine, vous êtes de passage en France pour la sortie d'un livre, Notre nouvelle nature au seuil. C'est d'ailleurs un autre livre qui vous a fait connaître du public français en 2017, Le champignon de la fin du monde, aux éditions de La Découverte. On va en parler dans un instant. Un mot sur votre discipline, l'anthropologie. Est-ce que vous l'avez tout de suite imaginé sur le terrain, votre métier d'anthropologue ? When you start.
Ce qu'il y a de bien dans l'anthropologie, ce qu'il y a de mieux, c'est qu'on a justement l'opportunité de s'immerger dans un autre monde. Mais je ne sais pas si vous parlez de façon très littérale, le travail aussi vraiment sur le terrain, la Terre.
Absolument.
Parce que c'est vraiment quand j'ai suivi ce champignon que je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je travaille littéralement la surface de la Terre, du sol, car ces champignons étaient souvent cachés sous cette croûte terrestre, sous cette surface. Et il fallait que je travaille justement dans cet espace.
Ça a été une drôle d'aventure, hein, ce champignon. Votre premier texte traduit en France, d'ailleurs, puisque vous vous intéressiez au matsutake. C'est un champignon très apprécié au Japon, où il est vendu à prix d'or, mais dont la particularité est de pousser dans les forêts dévastées par l'activité humaine. Comment vous avez été amené à vous intéresser à ce champignon en particulier, Annette Singh ?
En fait, au départ, je cherchais un bilan de consommation à l'échelle mondiale. Je voulais pouvoir observer les interruptions de la chaîne de production. Je voulais quelque chose qui ne soit pas trop standardisé, pas du blé ou pas du charbon. Je ne voulais pas quelque chose qui soit exactement pareil partout. Et je suis tombée par hasard sur ce champignon matsutake, j'en avais jamais entendu parler. Et puis ensuite, je suis allée à l'endroit où on les cueillait. On les ramassait et j'ai été très étonnant.
À quel endroit, en l'occurrence ?
C'était dans l'Oregon. Il y avait des cueilleurs qui étaient d'origine d'Asie du Sud-Est. J'avais moi-même déjà travaillé en Asie du Sud-Est pour mon livre précédent. C'était presque comme un village du Sud-Est asiatique, sauf que c'était au milieu d'une forêt de l'Oregon. Et les champignons eux-mêmes étaient vraiment fascinants et en même temps aussi toute la petite société autour.
Donc c'est devenu votre objet d'anthropologue, mais pour montrer quoi en fait ? Parce qu'on part d'un petit objet pour expliquer autre chose du monde.
Dans ce livre, j'ai suivi plusieurs fils narratifs, plusieurs fils de recherche. J'ai voulu effectivement m'intéresser à la commercialisation. Ce qui se passe, c'est qu'on cueille ces champignons en Oregon, on les envoie au Japon, et ce qui se passe là-bas, c'est que les gens qui les achètent sont les gens qui les mangent, parce que c'est un aliment, mais c'est aussi, ça a énormément de valeur en tant que cadeau. C'est quelque chose de très symbolique au Japon, un symbole de relation à l'autre. Et ce qui est devenu extrêmement excitant aussi dans cette histoire de champignons, c'est la relation qu'il entretient avec une écologie, un milieu particulier. Ce n'est pas un champignon qui pousse dans les endroits où il y a énormément de nutriments, dans les sols très riches. Au contraire, il pousse dans les endroits qui sont très appauvris et surtout en particulier ceux qui ont été détruits par l'activité humaine et où il y a moins de nutriments à cause de cette activité humaine. C'est un champignon qui d'ailleurs aide les arbres à pousser là où il n'y a pas beaucoup de nutriments pour les arbres.
On va écouter une lecture, Maëlys de Kerangal. C'était en 2019, justement autour de votre livre « Champignons de la fin du monde ».
Kao me tendit le champignon. Pour la première fois, je faisais l'expérience de son odeur. Cela n'a rien d'évident, rien à voir avec le parfum d'une fleur ou le fumet d'un plat appétissant. C'est plutôt troublant. Bien des gens n'apprendront jamais à l'aimer. C'est difficile à décrire. Certains évoquent une odeur de pourri et d'autres une pure beauté, les senteurs de l'automne. À ma première bouffée, je fus juste étonnée. Mais ce n'était pas seulement une question d'odeur qui me troublait. Qu'est-ce que des membres de la tribu mienne, des champignons pour japonais gourmets, et moi-même faisions là, dans une ancienne forêt industrielle en ruine de l'Oregon?
Voilà, Maëlys de Kerangal, en 2019, une lecture de votre ouvrage, Anne Natzing. Pourquoi vous dites que les champignons sont bons pour réfléchir? Et pourquoi celui-là, d'ailleurs, en particulier?
Je trouve que ce champignon-là est très bon, effectivement, pour penser, d'autres aussi, mais celui-là en particulier, parce que, déjà, il vit de façon intriquée avec les racines d'un arbre. Ce sont des relations interespèces, alors que nous imaginons toujours ces relations interespèces comme des relations de compétition, y compris les nôtres avec d'autres espèces, soit en mangeant, en émangeant. Ces champignons-là aident les arbres à pousser, donc ça donne une autre vision de ce que peut être la coopération interespèce. Et puis celui-ci, parce qu'il s'installe dans des zones très perturbées par l'activité humaine, au Japon, il ne pousse pas, à part justement dans les zones qui ont été très perturbées. Ça montre que certaines de ces perturbations d'origine humaine, pas toutes, mais certaines, peuvent parfois être compatibles avec une vie multi-espèce.
Donc ce champignon, il a aussi nourri vos travaux sur l'Anthropocène et cette question centrale de la destruction écologique, en tout cas du milieu terrestre.
Oui,
c'était très important. Parce qu'il m'a montré ce qui était possible pour la vie sur Terre, pour le vivant, malgré certaines formes de destruction humaine. Je ne veux pas dire que toutes les destructions opérées par les humains peuvent être bonnes de façon égale, mais cette intervention en particulier, par exemple dans ces villages et ces forêts japonaises, m'ont donné le sentiment que depuis des milliers d'années, les espèces pouvaient coexister, les humains pouvaient coexister avec d'autres espèces.
Comment vous expliquez d'ailleurs que ce livre a eu autant de succès en France. Pourquoi est-ce que les Français ont été touchés par votre histoire de champignons, Annette Singh?
Je crois qu'il y a eu une coïncidence historique dont je ne suis pas responsable. Je me sens tout à fait humble à ce sujet. Je crois que les champignons sont devenus importants en tant qu'aliments, pour les questions de goût aussi. C'est une façon de réfléchir la vitalité des espaces forestiers. C'est aussi devenu un matériau de construction aussi pour certains créateurs. Et donc, il se trouve que mon livre ouvrait une porte sur tous ces sujets-là à ce moment-là.
Alors, vous y décrivez effectivement, vous le disiez, des cueilleurs précaires qui inventent des formes de collaboration entre eux et leur environnement sur ces ruines du capitalisme, parce que c'est ça dont il s'agit. Et ça a été interprété, vous racontez, comme finalement un éloge de l'adaptabilité, de la créativité. Et vous dites que c'est quasiment une incompréhension par rapport à mon travail. Pourquoi ?
Eh bien, je vais commencer par l'aspect positif et puis ensuite je vous parlerai de l'incompréhension. Je trouve ça extraordinaire que ces réfugiés aux États-Unis, à un moment où ils étaient en train d'être exclus du système de protection sociale, il n'y avait plus d'aide, il n'y avait rien pour leur apprendre l'anglais, pas de programme, non plus de formation professionnelle, et ils ont pu se débrouiller et faire vivre leur communauté avec ce c'est vraiment ce mode de vie extrêmement précaire. Et ça, c'est quand même une chose assez extraordinaire. Là où il y a une incompréhension, selon moi, c'est sur l'idée que tout ira bien au final et qu'on peut détruire tout ce qu'on veut, qu'on peut rendre la vie extrêmement difficile pour les réfugiés et qu'il y aura quand même des champignons et qu'ils se débrouilleront. C'est ça l'incompréhension selon moi, et c'est ce qui conduit d'ailleurs au projet du nouveau livre, parce que j'avais l'impression que les gens développaient un espoir irréaliste et le voyaient ça comme le message du livre.
C'est ça, donc ça vous a piqué au vif et vous dites, hein, j'ai décidé que mes prochains travaux allaient raconter des histoires terrible, mais de la même manière que j'ai raconté celle de Matsu Take, pour que les gens se sentent emmenés, impliqués comme ils l'ont été avec ce livre. Donc pour vous, c'était vraiment une... ça vous a stimulé finalement.
Oui. J'ai pensé qu'il y avait trop de gens qui faisaient une lecture trop positive de l'Anthropocène, en particulier du côté des sciences humaines. Les gens voulaient mettre en valeur cette créativité, ce soin mutuel, mais ils ne racontaient pas les histoires les plus affreuses, donc je voulais relever ce défi. Mais avec la même attention portée aux détails qui donne envie aux gens de continuer à s'y intéresser plutôt que de se détourner du problème et de l'écarter de façon un peu rapide, cette possibilité que les humains vivent avec d'autres espèces. Faire attention vraiment aux pires abus commis contre la Terre et voir où nous nous positionnons si nous faisons attention à ces détails.
Bon, ben, le pari est réussi, on en parlera dans un instant, en tout cas avec cet ouvrage, Notre Nouvelle Nature. On va écouter, Anat Singh, la philosophe belge Isabelle Stengers. C'était en 2020 à Bruxelles, elle parlait justement entraide et écologie.
On commence à goûter la barbarie, hein, enfin à savoir le goût que ça a. C'est d'ailleurs beaucoup plus facile à produire de la barbarie qu'une culture écologique, ou ce que certains appelleraient une culture de la vie dans toutes ses formes. Et donc, encore faut-il prendre bien écologie au sens où c'est pas uniquement l'environnement, mais c'est aussi l'écologie sociale, l'écologie culturelle, l'écologie politique au sens fort du terme, c'est-à-dire l'art qu'on doit pouvoir développer de penser ensemble, de décider ensemble, et non pas les uns contre les autres.
Voilà, Anat Singh, je voulais vous faire réagir sur ces propos d'Isabelle Stengers lorsqu'elle dit qu'effectivement, ben, l'écologie, c'est pas seulement l'environnement, c'est pas que la nature, c'est du social, c'est du culturel, c'est du politique.
I think that's completely correct. Je pense que c'est tout à fait vrai. Pendant trop longtemps, on a distingué les spécialités, les disciplines. On étudiait d'un côté le monde naturel, l'écologie, et de l'autre côté ce que faisaient les humains. Et donc on a tendance à penser, malgré toutes les théories philosophiques qui nous montrent à quel point nous sommes liés, on continue à travailler les sujets séparément. On a vraiment besoin d'une nouvelle forme d'attention portée à des endroits bien précis où l'histoire humaine et les formes de vie aussi non humaines sont vraiment entremêlées.
Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que nous sommes en train de vivre en ce moment sur les ruines du capitalisme ? Parce que c'est évidemment un des grands sujets aussi de votre démarche intellectuelle. Quels sont les signaux en fait qui pourraient l'indiquer ?
Je crois que pendant très longtemps, pendant des siècles, quand les entreprises capitalistes investissaient à un endroit, la plupart du temps, l'entreprise capitaliste dévastait cet endroit puis passait au suivant. John Solory a écrit un livre sur l'histoire des bananes en Amérique centrale. À chaque fois qu'il y avait trop de maladies et que les bananiers ne poussaient plus, on s'installait dans un nouvel endroit. C'était tellement puissant que ces mouvements, qu'ils ont vraiment investi un énorme territoire en Amérique centrale qui s'est retrouvé couvert de plantations de bananiers morts. C'est vraiment la façon dont le capitalisme avance, et cette prise de conscience de l'Anthropocène, c'est la prise de conscience qu'on ne peut pas faire ça pour toujours, qu'on n'aura bientôt plus d'espace pour faire ça, et que ces plantations en ruine sont les endroits où il va falloir apprendre à vivre.
D'ailleurs, vous avez créé un terme avec la philosophe Donna Haraway, que vous avez rencontrée d'ailleurs à l'université de Santa Cruz en Californie, et à l'occasion d'un colloque au Danemark, vous avez proposé le terme « plantationocène ». Qu'est-ce qu'il dit de plus que l'anthropocène, ce terme, puisqu'on parle de plantation ? Ça vient directement de cette histoire-là ?
Parfois, quand les gens utilisent le concept d'anthropocène, ils sont convaincus que c'est un terme qui désigne une époque de contrôle humain, alors qu'en réalité, c'est la défaite du contrôle de l'humain maître du monde. Donc, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on a fait aux terres, aux territoires, à l'eau, à l'atmosphère aussi, à l'air. Cette idée du plantationocène, l'idée est basée sur l'idée que l'un des mouvements historiques les plus importants, c'est celui de l'expansion du monde européen au travers de la planète, a donné naissance à une forme d'agriculture bien particulière qui utilisait le travail forcé, parfois le travail des esclaves, et aussi des plantes exotiques que l'on contraignait pour que ça fonctionne dans ce contexte de plantation. C'est ça, la plantation. Et l'agriculture contemporaine s'appuie encore sur ce modèle de la plantation. On utilise énormément de machines pour cultiver. Les machines ont remplacé ce travail forcé plutôt qu'un travail humain qui soit capable de porter attention à plusieurs types de plantes en même temps, etc. Les machines, comme le travail forcé, comme les travailleurs contraints, ne peuvent suivre qu'un type de champ, de culture à la fois. Et c'est ce qui a créé aussi toutes ces maladies, tous ces agents pathogènes et ces ruines qui sont répandues partout dans le monde.
France Inter. La Terre au carré.
L'anthropologie, qui était un peu marginale, anthropologie physique aussi bien qu'anthropologie culturelle, devient centrale pour produire des ressources, pour comprendre ces nouvelles situations. Mais là, on rentre dans une question qui est aussi bien d'anthropologie que de métaphysique, disons, c'est quelles sont les alternatives, les gabarits ontologiques qui permettent de saisir des choses aussi complexes qu'un climat sur lequel on agit, des coraux dont on est en train de modifier la composition à cause de l'acidification et de la température, etc.
La voix de Bruno Latour en 2020, Anat Singh, vous qui êtes anthropologue, professeur à l'université de Santa Cruz en Californie. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui lorsqu'il dit que votre discipline aujourd'hui est devenue centrale et plus du tout marginale, évidemment à la lumière des enjeux qui sont ceux de l'écologie par exemple ?
Oui, je crois que c'est vrai. Nous sommes l'une des disciplines les plus qui s'intéresse le plus, qui travaille le plus sur la question des modes de vie, des alternatives aux modes de vie dominants, et donc aussi à la vision de ce que pourrait être l'avenir. Et ça, c'est très important aujourd'hui.
Avec une anthropologie de terrain, évidemment, et c'est l'objet de ce livre, Notre Nouvelle Nature, aux éditions du Seuil. C'est un guide de terrain, donc ça sert à se repérer, mais ça, à se repérer dans quoi ? Quoi exactement ?
On a besoin de trouver nos repères à la fois dans ce que j'appelle les patchs et ce qui est à l'échelle de la planète, c'est-à-dire à la fois dans des petites zones bien précises et au niveau de la Terre dans son ensemble. Il faut qu'on fasse les allers-retours en permanence entre les petits détails et les liens que nous nouons au travers de la planète.
Alors, exemple, un patch par exemple, un patch de l'Anthropocène, Anat Singh, dans votre pensée, ça ressemble à quoi, concrètement ?
Dans l'un des exemples qu'on utilise dans le livre, on s'est adressé à une artiste aborigène, à un artiste aborigène qui a dessiné le totem de son clan, qui était un lézard moniteur. C'est une espèce qui disparaît à cause de l'invasion de crapauds qui ont été introduits par les colons pour manger des nuisibles dans les champs de canne. rien à sucre, en fait ils n'ont jamais mangé les nuisibles, et ils s'en prennent à ces espèces natives que sont ces lézards. Donc pour son clan, c'est une véritable tragédie de perdre leur animal totem, parce que ce n'est pas seulement une source alimentaire ou un enjeu environnemental, ça représente aussi leurs ancêtres. Donc la mort de ces lézards crée un patch féral avec cette introduction de cette espèce de crapaud. Mais c'est aussi lié à ce qui se passe dans d'autres endroits, dans d'autres zones, parce que les lézards nichent sous terre et beaucoup d'autres espèces utilisent les cachettes, les terriers qui se creusent en fait sous terre. Et donc sans cette tanière, beaucoup d'autres espèces perdent l'accès à un refuge sûr.
Mais alors un patch féral, pardon, hein, mais je vous arrête parce qu'il faut nous expliquer également ce que c'est. Donc vous avez expliqué un peu le patch, mais féral c'est quoi exactement ?
Excuse me for not explaining it first.
Désolée, je n'ai pas expliqué au début, j'aurais dû. Le mot féral, c'est un mot au départ qui désigne un animal de ferme, un animal domestiqué qui se sauve et qui va vivre seul dans la nature. Nous avons développé, étendu ce concept pour inclure par exemple une toxine, un produit toxique qui s'échappe d'une industrie et va se déverser dans l'océan. Ou une maladie qui vient d'une activité humaine, par exemple la grippe aviaire, qui sort de la production industrielle de poulet et qui va se répandre partout dans le monde et passer d'un autre animal à un autre. Voilà des exemples de ce que c'est que le féral. Un patch féral décrit simplement l'endroit où ça se produit. Par exemple, quand on regarde une maladie, si on considère une maladie, l'endroit où cette maladie est répandue, c'est le patch. Donc on ne peut pas savoir quelle va être l'ampleur en fait de la zone qu'on observe. Ça dépend de l'objet d'étude. Si on regarde comment un produit toxique se répand, il va falloir regarder où ce produit toxique est allé pour déterminer les limites du patch, et c'est vraiment une nouvelle unité émergente pour observer les choses. Ce qu'on défend dans le livre, c'est l'idée que les infrastructures industrielles ont des effets, on parle d'effet féral. Donc c'est un effet, un impact qui va échapper au contrôle de ceux qui ont créé l'infrastructure et qui va avoir justement ces effets que je viens de décrire.
Et donc l'idée de ce livre aussi, c'est, vous l'expliquez, d'avoir un regard différent sur le monde qui nous entoure. C'est-à-dire qu'on peut arriver, nous en tant que Kidam, à repérer ces différents patchs, qui sont des fragments en fait disséminés partout sur la planète.
On a créé justement un guide de terrain dans l'espoir qu'on pourrait montrer aux gens comment regarder, observer le monde autour d'eux pour voir justement cet impact, cet effet féral des infrastructures humaines partout où ils vont. Les exemples du livre ne sont qu'une ouverture pour montrer comment regarder le monde autrement. C'est très différent de, par exemple, quand on considère le changement climatique et qu'on se demande comment y réagir ensuite sur le terrain. Là, on part du terrain, on observe cet impact féral et à partir de là, on développe une approche pour comprendre l'Anthropocène.
Voilà, un livre d'ailleurs qui est né d'un projet d'atlas en ligne, le Feral Atlas, que vous avez imaginé avec d'autres chercheuses et chercheurs. C'est donc aussi un projet numérique avec des histoires qui sont racontées alors, par des chercheurs en sciences naturelles ou en sciences sociales. Et quand vous parlez de nouvelle nature, Anat Singh, vous assumez d'employer ce terme nature, qui est très discuté aussi aujourd'hui dans les sciences humaines. Évidemment, on pense à Philippe Descola, parce qu'il y a cette idée que la nature divise en fait les humains et les non-humains. Mais vous l'assumez, ce terme
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Descola et tous les autres philosophes qui disent qu'on ne peut absolument pas distinguer les humains du reste du monde et en qualifiant celui-ci de nature. Mais je voudrais me réapproprier ce terme et donc dans cette expression « nouvelle nature », c'est justement l'idée de décrire le monde autour de nous dans lequel l'histoire des non-humains et des humains est inextricablement liée. C'est exactement ça que je définis comme la nouvelle nature.
Quel regard vous portez sur on parlait des luttes aux États-Unis là, en ce moment face aux politiques migratoires, mais on en a beaucoup, nous aussi, des luttes pour d'autres sujets d'ailleurs, contre des projets d'aménagement par exemple, des autoroutes, des méga-bassines, des entrepôts logistiques. Ça, ce sont des luttes aussi contre une mécanique capitaliste de destruction du vivant. Comment vous observez-vous des États-Unis ce qui se passe chez nous ?
C'est très inspirant ce que j'ai entendu en France, notamment les projets de lutte contre des projets d'infrastructure et dans des zones très précises. Je pense que c'est un modèle qui est excellent pour s'organiser et justement pour regarder l'effet précis d'une infrastructure et les dégâts écologiques que ça peut causer. Je pense que depuis bien trop longtemps, on a pensé que justement la construction d'infrastructures résoudrait tous nos problèmes et qu'il suffisait de continuer à en construire d'autres. En réalité, ça demande une approche beaucoup plus critique et beaucoup plus attentive pour voir que parfois, ne pas construire est la meilleure réponse pour pouvoir avoir justement un bien-être à la fois pour les humains et les non-humains.
Anna Tsing, merci beaucoup. Je renvoie donc sur ce livre qui arrive en France. Ça s'appelle Notre Nouvelle Nature, guide de terrain de l'Anthropocène. C'est aux éditions du Seuil. Je signale également que vous serez à l'Académie du Climat cet après-midi à 19h30, enfin début de soirée, 19h30. Je crois que malheureusement c'est complet. Et vous avez une séance de rattrapage au Grand Palais demain. On pourra également vous écouter et vous entendre à partir de 16h demain à l'occasion de votre passage en France. Merci beaucoup Anna Tsing d'être venue au micro de la Terre au Carré.
Thank you so much for having me.
Et c'est le moment de retrouver Claire Nouvian de l'association Bloom en direct de Nice pour la dernière journée de la conférence internationale sur les océans, l'UNOC. Claire Nouvian, bonjour.
Bonjour Mathieu.
C'est donc la fin de cette conférence, même une fin qui a été plus rapide que prévu, je crois.
Oui, en fait, ce sommet international sur l'océan a tellement soigneusement évité de parler des sujets qui comptent qu'on a vraiment vu la fin des négociations 24 heures plutôt que prévu. C'est vraiment dire qu'ils avaient manqué de travail, ils avaient manqué d'imagination, ils avaient soigneusement piloté l'affaire de façon à ce que on ne parle pas des sujets qui fâchent, parce que dans une conférence sérieuse, au moment où le climat s'effondre, où la biodiversité est détruite et disparaît sur Terre, nous, on aurait eu des idées, on aurait eu plein de sujets à discuter avec la communauté internationale sur la fin des émissions de CO2 et sur la façon d'arrêter de détruire l'océan et le climat. Mais non, ils n'avaient plus rien à se dire. Donc, 24 heures plus tôt, c'était la fin du spectacle.
Claire Nouvian, un mot pour qualifier cette conférence pour vous ?
Ah ben, le naufrage, très clairement, le naufrage diplomatique. En plus d'une escroquerie environnementale qu'on a bien établie, je pense, cette semaine, grâce aux chroniques qu'on a faites ensemble. Mais oui, le naufrage. C'était désastreux de penser que les nations avaient une plateforme, un endroit où toutes ensemble, les délégations avaient l'occasion de parler, d'être à la hauteur des enjeux absolument sidérants, en sachant évidemment que toute inaction politique a des conséquences meurtrières pour la sécurité des sociétés, pour l'emballement du climat, pour l'effondrement des animaux marins, des écosystèmes. Voilà, tout était là, tout pouvait se jouer là et on n'a rien fait. On a laissé les autres annoncer des progrès, par exemple le Royaume-Uni, la Polynésie française, où le travail a été fait, où ils ont annoncé des vrais progrès pour la protection de l'environnement marin. Et nous, tout ce qu'on a trouvé à faire, c'est d'inventer une immense escroquerie, c'est prendre notre travail et de faire cette fausse carte de la protection qu'on a évidemment dénoncée.
Claire Nouvian, en tout cas, on a avancé quand même à Nice sur le traité de la haute mer, s'il fallait quand même dégager un point positif de cette semaine.
Oui, tout à fait. Le traité de la haute mer, c'est un traité qui permet en fait de régler un angle mort du droit international, qui est évidemment l'absence de consensus sur le partage des richesses génétiques dans les eaux internationales. Ça, c'est un vrai progrès. Ça a été 20 ans de négociations et ça a sauvé la France du déshonneur complet, puisque la France s'accroche au traité de la haute mer pour faire croire qu'elle a été vraiment instrumentale, qu'elle a été vraiment une force très forte là-dedans. Ça ne suffit pas, évidemment, à masquer le vide et l'absence totale de responsabilité politique dans notre rôle de l'échec de ce sommet.
À l'issue de cette conférence, qu'est-ce que vous avez décidé de faire à Bloom ?
Eh bien, il y a un vrai mérite dans tout ça. C'est que la carte qui a été produite par le ministère de la Transition écologique nous a permis de montrer de façon factuelle que le gouvernement avait donc délibérément menti aux Français et menti à la communauté internationale. Ça a été évidemment l'objet d'un mensonge d'État qui est en train de se transformer en scandale politique Le député Jean-Louis Romégas a adressé cette question à l'Assemblée nationale. En réponse, le gouvernement nous a traités de menteurs. Au moment où les lobbies de la pêche industrielle nous attaquent comme jamais avec une politique de diffamation qui vraiment nous éclabousse de partout, évidemment à partir de sites anonymes. On demande d'une part des excuses formelles au gouvernement, d'avoir repris les éléments de langage des lobbies destructeurs du monde et en plus utilisant des réseaux mafieux pour nous attaquer et nous harceler. Et d'autre part, on demande la démission de la ministre de l'écologie, Agnès Pannier-Runacher. On n'en reste évidemment pas là. On a préparé un cas pour attaquer la France en justice et obtenir par la voie des tribunaux la protection de l'océan qu'il refuse aux générations futures. L'océan brûle et Macron regarde les destructeurs.
Donc ça, c'est une annonce que vous faites aujourd'hui. Vous attaquez la France en justice.
Oui, on attaque la France en justice. On ne tolérera plus l'inaction du gouvernement. On va devant les tribunaux pour porter cette affaire d'une gravité extrême.
Claire Nouvian, on va terminer sur ces informations et sur ce bilan, donc naufrage, pour résumer le mot que vous avez employé tout à l'heure sur cette conférence donc à Nice. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tout au long de cette semaine. Et à très bientôt au micro de la Terre au Carré.
Merci.
Et merci à toute l'équipe qui a préparé cette émission aujourd'hui. Anna Massardier pour le dossier, Valérie Ayestaraï à la réalisation, Titouan Labarre était à la technique, Marguerite Capelle pour la traduction de notre entretien avec Anna Tsing.